Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talab al-ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension, wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi, rabbi ya'arf mimouna, mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, salam, azoul, marhaba bikoum sur les ondes positives de Au cœur de l'islam, un programme que vous ne trouverez que sur Radio Alger Chien 3 de la radio algérienne. Merci de nous guetter tous les vendredis à 5h et à 14h et merci de rester en contact avec nous via la page Au cœur de l'islam Chien 3 sur x.com. Vos commentaires et vos relèvements nous font toujours chaud au cœur. Salam alaikum Kamal Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors nous continuons notre étude du Mukhtasar d'Al-Akhdari, mais avant cela, je voudrais vous citer une belle phrase de l'imam Shadouli, Abul Hassan Shadouli, Kamal Shakat, qui nous dit « Atqakum ilallah ab'adukum an maharimihi ilaysa aktarukum ta'at bel aqallukum ma'asi istabr ilidinika wabta'id ani shubuhat nisbatun nifaqi fika ala qadarika salika ani salat al-husnu ma hassanahu shara' wal-qubhu ma qabbahu shara' »
Allahu Akbar. Relisez, on va tenter de traduire.
Atqakum ilallah ab'adukum an maharimihi.
Donc le plus pieux d'entre vous, ou celui qui craint le plus Dieu parmi vous, est celui qui s'éloigne le plus possible de ses interdits. Oui.
Il est dit, laysa aktarukum ta'atun bal aqallukum ma'asi.
Ce n'est pas celui d'entre vous qui fait le plus d'œuvres, c'est plutôt celui qui a le moins d'infractions, on va dire. Oui.
Istabr lidinika wabta'id 'ani shubuhat.
Alors ça rejoint un hadith, celui qui s'éloigne justement par crainte de toute chose équivoque a blanchi sa foi.
نسبة النفاق فيك على قدر كسلك عن الصلاة.
Là, ça devient grave. Le degré d'hypocrisie qui réside en toi est à la hauteur de ta fainéantise quant à accomplir la prière. C'est
Donc,
grave.
Le retard, fainéantise, retard.
Laxisme.
Ça craint.
Oui.
الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع.
Ce qui est beau, c'est ce que la religion a rendu beau ou a embelli ou voit beau. Et le mal, c'est ce que la religion considère comme mal ou voit comme mal.
Pourquoi ces savants d'avant étaient très percutants, Kamal Shekat ?
Parce qu'ils ont très bien compris les choses, ils les ont bien mises en application, c'est tout.
Pour arrêter de perdre du temps et d'aller
oui,
vers l'essentiel.
Oui, vers l'essentiel. Sinon, je le dis très souvent, qui ne va pas à l'essentiel ne peut que faire dans le superflu. Mmh. Et nous, nous sommes passés maîtres en la matière, le superflu.
Alors Kamal Shekat, pourquoi faire la prière alors qu'il nous suffirait de rester en contact avec Dieu ? Pourquoi faire pendant des heures des prières sur son tapis au creux de la nuit, tout en pleurant comme si nous avions perdu quelqu'un de très très cher, au moment où d'autres, comme moi par exemple, comme X, comme Y, sont là à se suffire juste de l'ordonnance de Dieu, argumentant par les propos du prophète, alayhi salatu wa salam, au Arabi, qu'il suffirait juste de faire ces 5 prières dans les temps et oui. nous entrerons au paradis.
Pourquoi je l'espère, parce que moi je suis dans X ou Y justement, comme pour...
Nous sommes nombreux dans cette station, oui, Kamel Chekat. Pourquoi insister sur la pureté? Pourquoi à chaque fois vous répétez la sincérité? C'est important. C'est ce que nous allons tous savoir à travers ce Murtasar d'Al-Akhtari.
Inch'Allah, parce que ça commence justement par ça. D'accord. Ça commence par ça.
Très
ça
bien.
Commence par un certain nombre de points. Il ne va pas directement vous parler de la prière, il va parler de ce qui vous prédispose à être dans la prière. C'est-à-dire faire la chose, mais de manière très réfléchie. Il y a tout.
On peut commencer.
Bien sûr, ça commence par la formule d'usage qui est Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Là, tout comme c'est le cas pour Alhamdulillah, louange à Allah, par laquelle nous commençons bon nombre de nos choses, nous avons un hadith, Mawquf, qui remonte au messager de Dieu, alayhi salam, qui dit, toute affaire sérieuse, toute chose sérieuse, kullu amrin dibal. Layubda'u fihi bi bismillah, ou dans d'autres versions bilhamdulillah, soit par bismillah ar-rahman ar-rahim ou bien par alhamdulillah, fa huwa aqta'u ou abtar. Donc toute entreprise de ce genre qui ne commence pas par ces deux formules est une entreprise qui est amputée ou une œuvre qui est amputée, qui est pratiquement vaine. Alors il commence donc par ça, ensuite il dit wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, que le salut de Dieu soit sur notre Seigneur Mohammed, sur son clan, sa famille et sur ses compagnons. Et ensuite, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin Khatamin Nabiyyin wa Imamil Mursalin. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Seigneur des univers, et que son salut et sa bénédiction soient sur notre Seigneur Mohammed, le dernier venu des prophètes, ou bien sceau des prophètes, et l'imam des messagers, ou des envoyés. Ensuite, il commence par parler de ce qui devrait servir de préalable à la prière. Et il dit « Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi » les premiers devoirs obligatoires de celui qui est responsable de ses actes, « al-mukallaf » sont. Alors là, « tklif » c'est le fait d'avoir atteint l'âge de raison et de devenir responsable de ses actes devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que...
Et devant la loi des hommes aussi, comme à chaque...
Absolument, oui. Ça veut dire que vous n'êtes plus mineur, comme on dit actuellement. Sauf que là, sin taklif, c'est la puberté, généralement. Et là, nous sommes entourés par une fausse science qui nous parle de l'adolescence comme étant l'âge ingrat, l'âge où l'on est instable émotionnellement, etc. C'est un âge où l'on ne peut pas vraiment considérer comme responsable les gens, où l'âge de raison, là, dans la majorité des juridictions, commence avec l'âge de 18 ans révolu, c'est-à-dire 18 ans et un jour. Alors à 18 ans, moins 3 jours ou moins 2 jours, vous n'avez pas de problème. À 18 ans et un jour, vous devenez responsable devant la loi de Dieu et celle des hommes. Alors que non, normalement...
Et tous ces parents qui craignent leurs enfants, qui honnêtement,
nous avons tellement baigné dans le mensonge, même dans le mensonge scientifique, hein. La théorie de l'évolution, l'humanisme qui fait de l'homme la mesure de toute chose, la manière de voir de Sigmund Freud, de Bergson, et on va vous raconter de ces choses qui font que voilà, finalement, tout vise à éliminer Dieu du paysage, hein, du champ intellectuel, et ces gens-là ont bien réussi. Ensuite, c'était le mensonge, vraiment le mensonge savamment élaboré. Les Américains ont marché sur la Lune, Christophe Colomb a découvert le continent américain, le siècle des Lumières.
À lire l'article de Hamidullah, hein, oui. Sur la découverte des Amériques.
Alors, malheureusement, c'est tout ça qui a plus que faussé les choses. Donc, quand nous parlons de Mukallaf, nous sommes dans ce que Dieu a donné comme prédisposition mentale à l'homme pour le tenir pour responsable de ses faits et gestes. Et ce qui est bien, c'est que nous avons cette maxime juridique qui nous dit « Ida salab Allahu ma wahab asqata ma awjab » quand Dieu reprend ce dont il vous a fait don, notamment l'intelligence, la capacité de discernement, etc., il vous décharge de ce qu'il vous a rendu obligatoire. Donc il est très pointu quand il dit « Awwalu ma yajibu ala al-mukallaf » les premiers devoirs obligatoires de celui qui est responsable de ses actes, tenu pour responsable devant Dieu. Et il va commencer à énumérer un certain nombre de choses.
L'islam nous enjoint à accomplir la prière à partir de l'âge de 7 ans.
Oui.
Alors, c'est jusqu'à 10 ans.
À l'âge de 7 ans, vous êtes exhorté à le faire.
Oui.
Bon, quand on dit « wadribuhum », là, il va falloir aussi comprendre.
T'as passé à mort, hein?
Non, ça n'est pas du tout ça. C'est-à-dire montrer à l'enfant vraiment une forme de mécontentement par la punition. Et là, ceux qui vous diront « non, des enfants, il faut les prendre autrement, etc. » Nous avons des études faites par d'éminents psychologues qui ont démontré que la punition comme ça corporelle, mais vraiment à super faible dose, hein, le messager de Dieu, quand il parlait à Mirdas, qui était l'enseignant dans le Kouteb, qui était même à Médine, c'était celui qui enseignait le Coran aux enfants à l'époque même de la prophétie, donc trois petits coups comme ça, et nous savons que le messager de Dieu, d'après Aïcha, il n'a jamais levé la main sur quelqu'un, mais il a une fois menacé une servante par un cure-dent, Oud al-Arak. Il a dit, si je ne craignais pas de la loi du talion le jour du jugement dernier ou de la résurrection, je t'aurais frappé avec ce bâtonnet, donc ce cure-dent. Quand le hadith dit, wadribouhum alayha li ashrin, ça ne veut pas dire tabasser-les, massacrer-les, ou donner-leur le falaka comme le font certains dans les kutab, non. C'est une manière de montrer son mécontentement à partir de l'âge de 10 ans. D'ailleurs, vous savez, une fois, il paraît que le fils de l'imam Abu Hanifa est entré en pleurs à la maison. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il y a un cheikh dans le kutab qui m'a frappé. Et c'était un enseignant coranique qui frappait ses élèves. Vous savez ce qu'a fait l'imam Abu Hanifa? Il lui a envoyé une lettre dans laquelle il a écrit les premiers versets de Sourate Ar-Rahman. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Le miséricordieux, celui qui a appris le Coran. Ça veut dire que cette transmission du Coran, et par voie de conséquence la transmission de toute obligation religieuse, se fait dans la miséricorde. Le miséricordieux, celui qui a appris le Coran, qui a enseigné le Coran. Rahmanu allama al-Qur'an. C'est donc dans cette logique que s'inscrit ce hadith que vous avez cité.
Donc l'enfant n'est pas une chose, il a une dignité à préserver.
Absolument, absolument.
Très bien, continuons s'il vous plaît.
Alors, awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf, nous avons traduit tashihu imanihi. Donc avoir une foi sincère. Et ici, quand il dit tashihu al-iman, c'est pas corriger sa foi. C'est vraiment prendre conscience de ce qu'est la foi et faire en sorte qu'elle soit sincère. C'est une superbe traduction. Alors, vous savez, là, ces propos sont très, très importants. Dans la mesure où, une fois, je me souviens, nous étions dans la mosquée, c'était juste avant la décennie sanglante, et il y a quelqu'un qui faisait un prêche, et il faisait partie de ces gens-là qui étaient là pour corriger la foi des gens. Tsrih l'aqida, tsrih l'iman, etc. Qui était dans une logique, qui était celle des wahhabites, mais qui oubliait qu'il y avait d'autres écoles, qui sont l'école Ash'arite, l'école Maturidite, etc. Et moi, comme vous le savez, ce triptyque que nous étudions, que nous retrouvons dans le recueil versifié d'Ibn Asher, « Fi aqd al-Ash'ari wa fiqh malikin wa fi tariqat al-Junaydi Salik », c'est-à-dire que l'école dogmatique, c'est celle d'Abul Hassan al-Ash'ari, l'école juridique, c'est celle de l'imam Malik, et puis l'école spirituelle, c'est celle de l'Junaydi. Je suis on ne peut plus convaincu que ce sont là des références, mais je suis musulman. Ce qui m'a été légué par le messager de Dieu, alayhi salatu salam, c'est l'islam. Et ma foi, moi, quand on me parle de référence, c'est-à-dire de marji'iyya diniyya, de référence religieuse ou de référent religieux ici en Algérie, la référence religieuse, c'est ce qui fait consensus ou ce qui fait le choix des savants de l'époque. Souvenez-vous, quand il y a eu la crise du coronavirus, au niveau du ministère des Affaires religieuses, il y a eu toute une équipe qui a travaillé oui. Sur bon nombre de points. Et ces gens-là, kanu yatawassa'una fil futya. C'est-à-dire que j'ai connu des maîtres qui vous disaient, par exemple, vous disaient, qala al-qadi Abdel Wahhab, qui est l'auteur d'une référence dans l'école malékite, qui est le Ma'ouna, et vous disent non, faut pas citer le Qadi Abdel Wahhab, allons plutôt vers le Qayrawani, ou bien vers Bnouchas le Maliki, ou bien Abou al-Walid le Baji, etc. Mais pourquoi ne pas citer cela? Pourquoi ne pas citer, par exemple, Ibn Habib? Ibn Habib, qui est un grand savant malikite, dans ses avis, il est un peu plus tranché, il est beaucoup plus proche de l'école hanbalite. Il était dans l'école malikite dans la mesure où, pour ce qui est de ses sources d'inspiration, il était dans le sillage de l'imam Malik. L'imam Malik avait pour principe, par exemple, à partir du livre de Dieu et de la tradition de son messager, il y avait l'ijma, donc ijma sahaba, en premier lieu. Avant le consensus des savants de son époque, il y avait ensuite l'analogie. Vous allez vers l'imam Abu Hanifa, il est kana yufritu fil qiyas. Il était très porté sur l'analogie, mais il avait entre autres, il avait par exemple l'œuvre des gens de Médine. Et pour l'imam Malik, vous lui rapportez un hadith authentique du messager de Dieu, rapporté par un seul compagnon, transmis à un seul narrateur dans la chaîne de transmission pour que vienne ensuite une multitude de transmetteurs. Lui, il vous disait, une œuvre faite par les gens de Médine, qui a été transmise par des centaines à des centaines, puis à des centaines de personnes, est plus valable à mes yeux qu'un hadith dit « ahad ». C'est-à-dire un hadith qui n'a été rapporté que par une seule personne.
Je vous rappelle que, M. Kat, lors des émissions qu'on avait réalisées dans cette période de la grande crise sanitaire, oui, notamment à la réouverture des mosquées, on était obligé d'accepter que la salade se fasse séparément.
Oui.
Alors que ça, c'était un avis extrême.
Non, c'est pas un avis extrême. En fait, tsuyet sofouf mandoubun ilayha.
Mandoubun, traduisez.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui est tout simplement souhaité. Le fait qu'il y ait des gens qui s'alignent par 3, par 4, par 10, etc., l'alignement, il a été respecté. Et le fait que les gens soient alignés sans pour autant que les pieds et les épaules soient collés ne pose aucun problème.
Et pourtant, la commission des fatwas a été agressivement attaquée par X et Y.
Oui, mais le problème, c'est que c'est X et Y. Quand la chose a été faite dans les deux lieux saints de l'islam, ils n'ont attaqué personne. Pourquoi? Parce que Wali al-Amr, il était là-bas. Ce que nos officiels doivent comprendre, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est fait, disons-le de manière un peu plus claire, à la Mecque et à Médine. La même chose est reproduite ici en Algérie. On s'attaque à ce qui est fait en Algérie. Et quand vous leur dites, mais les autres, ils ont fait ça, ils vous disent, non, vous êtes en porte-à-faux par rapport à la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour revenir à tasrih l'iman, ici, nous disons que c'est là, avoir une foi sincère. Corriger sa foi, c'est faire en sorte qu'elle soit sincère, pas qu'elle soit conforme à un texte. Donc, je vous parlais de quelqu'un qui faisait un prêche, et à un moment donné, il se tourne vers l'auditoire, vers l'assistance, et il dit « Aïna Allah, où se trouve Dieu ?» Et là, vous savez, les gens, ils étaient là, à regarder cet hurlu-berlu poser cette question comme ça, et il a dit « C'est grave, vous ne le savez pas, c'est grave. Allahu fis sama. » Dieu est dans le ciel et au septième ciel, plus précisément. Et on va vous dire oui, et un tel a dit, on vous cite les quatre imams, etc. Alors que ces gens-là étaient contre le madahib. À chaque fois, quand ils disaient non, ne me dites pas Malik ou Abu Hanbal, Ahmed ibn Hanbal ou X ou Y, dites-moi, Dieu a dit, son messager a dit. Alors que ce fameux hadith, Hadith al-Jariya, on l'appelle, la tubna alayhi aqaid, la tu'assasu alayhi aqida. Il ne peut pas servir d'argument pour fonder, élaborer un dogme. On lui a tout simplement dit, crois-tu en Dieu? Elle a dit, oui, je crois que Dieu est dans le ciel. Ce n'est même pas une attestation de foi, si l'on se réfère à l'islam. Et le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a accepté sa foi. Mais de là à faire de ce hadith l'un des fondements même de la foi, quand vous allez étudier l'épître d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit « Wa huwa fawqa al-arshi bidatihi wa fi kulli makanin bi'ilmih » Mais même quand il dit « Il est partout avec sa science », c'est-à-dire « Inni ma'akuma asma'u wa ara » Je vois, j'entends tout, je suis au fait de toute chose. Il dit cela sans qu'il n'ait eu de preuve émanant d'un texte fondateur. Mais c'est l'une des explications les plus plausibles. Alors quand on vous dit « Où est Dieu ?» Bien sûr, généralement, quand on s'adresse à Dieu, de manière instinctive, nous avons tendance à lever les yeux vers le ciel. Imam al-Juwayni, sahib al-Waraqat, une fois, il a été justement quelqu'un de Hamadan. Le Hamadan, il lui a dit, pourquoi avons-nous cette tendance? Et il a dit, j'ai été confondu par le Hamadani. C'est vrai, c'est quelque chose d'instinctif. Donc Dieu est tout haut dans le ciel. C'est une manière innée d'aborder Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais tasrih l'iman, ça ne veut pas dire être conforme à ce qui a été dit par Ibn Taymiyyah ou bien Ibn al-Qayyim. Tsahih l'iman, c'est vraiment avoir une foi sincère, pure. Et puis c'est pour cela que bon nombre de nos savants ont dit « Mittu ala aqidati sibyani wal aja'is ». Je meurs selon ce qui fait le socle même du dogme chez les enfants et les vieilles dames, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est partout. Et quand je veux m'adresser à lui, j'ai tendance à lever les yeux vers le ciel. Pourquoi? Pourquoi devrais-je faire cela? Ou pourquoi est-ce que je fais cela de manière instinctive? Peut-être que parce que dans la tourmente, dans la gêne la plus totale, j'ai tendance à lever les yeux au ciel parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a de l'ampleur, je ne sais pas. Mais les gens ont tendance généralement à faire cela.
Excusez-moi, Kamashkat, avant d'aller plus loin. Vous avez évoqué l'emplacement de Dieu subhanahu dans cet univers et les soufis travaillent beaucoup sur un hadith Qudusi que certains récusent, hein, où il est dit « Ni ma terre, ni mon ciel ne me contiennent, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient. »
Oui, absolument. C'est vrai, plus que vrai, dans la mesure où l'on est censé se poser cette question. Que peuvent constituer les cieux et la terre par rapport à l'entité divine? Ypsilon, infinitésimal. Le problème avec bon nombre de nos savants. Nous avons un autre hadith qui est authentique et reconnu par tout le monde, qui dit que Dieu descend à cette dimension que nous appelons Sama Dunya, dans le ciel terrestre, au dernier tiers de chaque nuit, et là, il s'adresse à sa création. Hal min mustaghfirin fa aghfiru lah. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait se repentir et à qui j'absoudrai ses fautes? Hal min da'in fa astajibu lah. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait m'adresser une supplique que j'exaucerai? Vous savez, si vous lisiez la dissertation qu'il y a justement sur ce fameux...
Cette descente.
Ouais.
Sur la place qu'il laisse, qu'il occupe.
Qu'il occupe. Est-ce qu'il laisse un vide en se déplaçant? Puis, je vais citer ça juste pour l'anecdote. Il paraît qu'Abu Rouh al-Ziwawi, qui était qadi dans la région du Sham à l'époque d'Ibn Taymiyyah, une fois, Ibn Taymiyyah, il a dit, alors qu'il était sur la chair, فَقُلْ مِنْبَرْ فِي يَوْمِ جُمْعَ إِنَّ اللَّهَ لَيَنْزِلُ كَنُزُولِ هَذَا مِنَ الْمِنْبَرِ. Il est descendu. Et bon, c'est de l'anthropomorphisme. Et il paraît qu'Abu Rouh lui a couru derrière pour le lyncher, hein. Un Algérien qui court après un Syrien.
De Mousroun,
comme on dit. Abu Rouh, le Ziwawi, le Jazairi, je crois, le Mengelati.
De
Aït Mengelat. Un petit salut à Aït Mengelat au passage.
Non, ça n'a rien à voir avec Aït Mengelat.
Oui, je sais.
C'est le grand soufi.
Je sais, mais bon. Rien ne nous empêche d'adresser.
Bien sûr.
J'aime particulièrement une de ces chansons qui s'intitule, que je ne comprends pas d'ailleurs, mais le rythme et la mélodie me mentent toujours plus, c'est Sarhi wa Manad al-Hun. Laisse l'eau couler. Oui. Très belle chanson. Mais en tout cas, il y a eu énormément de dissertations sur ce hadith Nuzul, mais peu d'entre eux sont allés vers l'essentiel qui consiste à exhorter les gens à se réveiller pour aller prier Dieu et pour aller se repentir. Oui. Il est là notre problème. Donc, tsahih al-mafahim, tsahih al-aqida, etc. ne consiste pas à aller vers l'avis d'un tel ou d'un tel, parce que ce sont tous des êtres humains. Et le problème dans le domaine du dogme, majal al-aqida, c'est que jamais un domaine n'a été autant ouvert aux néophytes que celui-là. C'est-à-dire que khilaf ul-ulama sara fil awam. Donc on a laissé n'importe qui aussi prendre position, disserter, se battre pour la vie d'un tel ou d'un tel dans ce domaine. Et là, quand l'imam al-Akhdari dit awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tashih imanihi, la meilleure traduction c'est ça, c'est avoir une foi sincère. Se corriger, non pas en termes d'information, mais se corriger au niveau de son cœur. Ensuite, il nous dit « ثُمَّ مَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ » Ensuite, savoir comment remplir ses obligations individuelles. Il parle ici de la prière, de la pureté rituelle ou la purification légale, du jeûne, etc. Par opposition à obligation communautaire. يعني في مقابل فرض الكفاية.
Réexpliquez, s'il vous plaît.
Alors, l'obligation individuelle, c'est l'obligation religieuse, telle que la connaissent les gens, c'est-à-dire la prière, l'aumône légale, le jeûne, le pèlerinage, pour qui en a les moyens. Ça, c'est quelque chose qui nous est obligé à tous. Fardul Aïn. Et dont on ne peut se décharger que s'il n'y a pas moyen de le faire. Alors, pour le jeûne, qu'est-ce qui pourrait vous donner une dérogation à ne pas jeûner? C'est la maladie et le voyage, par exemple, tel que cité dans le Coran. Pour l'aumône légale que nous appelons zakat et le pèlerinage, c'est la capacité physique et financière. Pour le pèlerinage, on invoque la capacité physique. Mais pour l'aumône, vous n'avez pas les capacités financières de faire votre aumône. Ça vous êtes déchargé de cette aumône, oui, tout simplement. Ça nous renvoie vers la maxime que nous avons citée tout à l'heure et qui dit « Ida salab Allahu ma wahab asqata ma awjab ». Vous n'avez pas les moyens où vous n'êtes pas prédisposé à rendre ce culte à Dieu, vous êtes déchargé de ce culte. Fardul kifaya, c'est une obligation aussi religieuse, mais qui n'incombe qu'à une partie des musulmans. Dans votre quartier, vous avez un voisin qui est mort. Faire la prière mortuaire sur le défunt est une obligation.
Pour toute la communauté.
Non, pas pour toute la communauté. Ah bon. Dès lors qu'il y a une partie des gens qui va accomplir cette prière, on ne peut pas laisser le mort comme ça, on va l'enterrer parce que personne n'a pu venir. Non, il faut qu'il y ait une partie des gens qui le fassent, et dès lors qu'il y a une partie des habitants du quartier qui s'est chargée de cela, pour le reste, elle ne devient plus une obligation. Fardul kifaya, c'est-à-dire que dès lors où une partie le fait, c'est bon. Quand vous prenez par exemple Salat al-Eid, Salat al-Eid, elle est surérogatoire. Les deux prières de l'Aïd, ce n'est pas une obligation religieuse. Mais imaginons que dans une localité, personne ne va vers l'aire de prière, ni l'imam, ni ceux qui vivent dans cette circonscription. Yatamul jami'a, c'est-à-dire que tout le monde va supporter ce péché.
Mais péché si, carrément.
Ah oui, l'aïtme. Mais dès lors où il y a une partie des gens qui le fait, aussi infime soit-elle, la chose passe, ça ne pose aucun problème. Ça, c'est la différence entre le fait d'être face à Fard Aïn, etc. Mais quand il dit Fard Aïn, il va l'expliquer. Il dit Ka'ahkam is-salati wa at-taharati wa as-siyam. Et là, c'est pour ça qu'il est cité, quand il dit ses obligations individuelles, en traduction, on vous met la prière, la purification ou la pureté rituelle et le jeûne. Ensuite, il dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْخَطَ عَلَيْهِ. Il doit observer en tout les limites posées par Dieu, c'est-à-dire ses interdits, s'en tenir à ses ordres et ses prohibitions, revenir à lui ou se repentir, qu'il soit glorifié, ou bien se repentir avant qu'il ne soit trop tard. En arabe, il est dit « qabla an yasrata alayh », c'est-à-dire avant que le courroux de Dieu ne s'abatte sur lui. Donc là encore, il y a tout un travail à faire sur soi-même et qui doit accompagner l'accomplissement de la prière. Remarquez que nous ne sommes pas dans la logique qui est celle, par exemple, des Hanbalites. Là, nous sommes dans la logique des Malékites. La différence, où est-ce qu'elle réside? Elle réside dans le fait que, dans l'école Malékite, ou dans les différentes écoles, alors, celui qui ne pratique pas la prière, est-ce qu'on le considère comme musulman accompli, comme musulman dévoyé, comme apostat, etc. L'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, vous dira que quiconque ne fait pas, n'accomplit pas, n'observe pas la prière en tant que commandement, reste musulman sans pour autant qu'on ne jette sur lui l'anathème, la yukaffar. Mais il dit, yuhbasu hatta yusalli, c'est-à-dire qu'on peut entreprendre contre lui une mesure punitive. Une mesure punitive, qu'on appelle en langue arabe ta'zir, c'est-à-dire on va peut-être le mettre en prison, le molester, etc. L'imam Malik et l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhima, vous disent que celui qui n'accomplit pas la prière ne peut en aucun cas être considéré comme mécréant. Sauf que il peut être passible de la peine capitale. Mais là encore, quand il parle de peine capitale, قَالُوا يُقْتَلُوا حَدًّا, par mesure punitive, لَا يُقْتَلُوا رِدَّةً, Ça veut dire que on ne va pas procéder pour un acte d'apostasie. Ce qui n'est pas le cas, ou ce qui n'est pas l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui dit « yukaffaru wa yuqtal ».
C'est l'avis, extrême, Kamal Chakal.
Oui, c'est l'avis qu'a choisi l'imam ibn Habib des Malikites. Hein. C'est-à-dire qu'il est, qu'on va le mettre à mort pour raison d'apostasie. Et ça, c'est entre autres l'avis parmi les Malikites. C'est pour ça qu'il faut quand on parle de l'école Malikite, il faut la connaître.
Dans une des émissions que nous avions réalisées en 2023 autour de l'apostasie, vous disiez que qu'on ne tuait pas quelqu'un pour un acte d'apostasie.
Je vais y revenir. Alors là, bien sûr, il y a toujours eu une divergence entre les savants de l'islam. Et le problème, c'est que tout porte sur l'interprétation d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Man baddala dinahu ». Nous allons y revenir. Là, Ibn Habib était de l'avis, qui était un grand savant malikite, mais qui était de l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il parle dans un recueil versifié dans sur le droit cultuel. Il dit, en parlant de la prière, « Wal kufru duna tarkiha bizzafi » Bzaf, comme on dit quand le kalimatun asila.
Un argot.
Oui. Asila. Oui, bien sûr, c'est pas de l'argot. C'est les Égyptiens, les Syriens nous disent oui, vous avez un arabe qui est un peu spécial. Nous avons un arabe qui est plus proche de l'arabe classique de Hijaz que ce qui existe en Orient. Wal kufru duna tarkiha bizafi wa at-tahru shartuha bila khilafi. Lui, il était d'avis que quiconque était laxiste quant à accomplir sa prière et qu'il négligeait fortement la prière devenait un kafir. Et il parle ici de kufr akbar, c'est-à-dire de la grande mécréance. Maintenant, pour revenir au point que nous avons cité, là, dans la logique qui est celle des malikites et hanafites, dans la logique qui est celle de l'imam al-akhdari, ceux qui ne pratiquent pas la prière mais qui ne la renient pas, la yajhaduha, n'est pas considéré comme un mécréant mais considéré comme un musulman qui est en porte-à-faux, qui est en infraction vis-à-vis des commandements de Dieu, muslim ainsi. Et pour revenir à l'apostasie, je dirais ce qui suit. Nous avons donc ce hadith, man baddala dinahu faqtuluh, quiconque change de religion, tuez-le. Mais pour beaucoup de savants, est-ce que cette mesure intervient en temps de paix ou en temps de guerre? Beaucoup sont d'avis qu'elle ne peut intervenir qu'en temps de guerre. C'est-à-dire, Men Beddala Dinahu ici ne concerne pas ceux qui vont changer d'obédience, mais beaucoup plus ceux qui vont trahir les musulmans
en temps de guerre, de belligérance.
Oui, c'est ça. Et pour preuve, nous savons que des groupes de juifs proclamaient leur islamité ou leur conversion à l'islam la journée et abjuraient ou bien renier l'islam le soir, sans pour autant qu'ils aient été tués ou massacrés autant par le prophète que par les musulmans. Nous savons qu'un bédouin est venu proclamer sa foi devant le messager de Dieu, alayhi salatu salam. Au bout d'un certain temps, il est venu dire au messager, aqilni ya Muhammad, donc libère-moi de mon engagement, et le messager de Dieu, alayhi salatu salam, n'a pas voulu lui accorder cela. Un jour, on a vu ce bédouin quitter Médine. Tout le monde savait qu'il voulait quitter Médine pour quitter la foi, tout simplement. Et personne ne l'a inquiété. Nous savons, à l'époque de Omar ibn Khattab, qu'il y a des gens qui ont apostasié en plein combat, qui étaient, je ne sais plus si c'était avec Khalid ibn al-Walid ou bien Ali ibn Abi Talib, et il les a laissés partir. Et à partir de là, on s'est dit donc qu'il y a une interprétation à faire sur ce hadith. Et l'avis le plus plausible, si l'on se réfère à la biographie ou bien au comportement du messager de Dieu, alayhi salam, et aux avis des grands savants de l'islam, c'est que quiconque délaisse la foi pour choisir une autre, qalu yustatab. Alors certains ont dit yustatab ou talatata ayyam. On va discuter avec lui pendant 3 nuits. Et s'il n'obtempère pas, on va le tuer. Mais là aussi, talatata ayyam. Qui est-ce qui, sur quoi vous basez-vous pour dire 3 jours? D'autres grands savants de l'islam ont dit yustatab ou madal hayat. C'est-à-dire qu'on va discuter avec une personne qui a décidé de renier l'islam toute la vie pour la faire revenir à la raison. Et ça, c'est...
Puisque les portes de la Taouba demeurent ouvertes jusqu'à... Oui,
ça, c'est la vie.
Pratiquement le jour
c'est
de la
vie le plus prépondérant. Et là...
Il a un taqoum sa'ab.
Il a un tashruqa al-shamsu min maghribiha. Jusqu'à ce que le soleil se lève à l'Occident ou à l'Ouest. C'est le contraire de ce qu'il devrait faire. Parce que là, nous sommes dans l'un des signes majeurs de la fin des temps.
Donc, l'istitaba mandal hayat. C'est ce qu'il faudra obtenir, Kamal Shekat.
Oui, c'est ça. Là, nous sommes dans la logique de nos savants. Qui veulent que quiconque s'adonne à la prière ou accomplisse la prière, il faut parfaire un certain nombre de choses pour que cette prière ait un impact sur le comportement. Ce que nous avons remarqué avec l'islam qui nous est venu du wahhabisme et du matralisme. Je me souviens une fois, j'écoutais quelqu'un qui argumentait l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal ala qadari ilmi, c'est un avis que je n'aime pas. Je préfère celui de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa. Ça reste une préférence. Mais si je devais vraiment donner mon avis là-dessus, je dirais que avant, nous voyons des gens faire leur prière. Beaucoup ne commençaient la prière que vers la fin de leur parcours sur terre. Mais ça, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne option, dans la mesure où vous ne savez pas ce que vous réserve demain. Est-ce que vous allez vivre jusqu'à l'âge de 60 ans, après avoir fait les 400 coups, vous vous dites, voilà, maintenant je vais me ranger. Non, mais c'est une manière de voir qui n'est pas fiable, qui n'est pas viable non plus. Et donc, ce que nous voyons chez les anciens, nos anciens, c'était des gens qui, dès lors où ils allaient à la mosquée, c'était des gens pieux, considérés comme pieux, c'était des gens qui en pouvaient faire confiance, des gens bien, tout simplement. Ce qui nous a été importé avec le wahhabisme, c'est « tu serres la main à Dieu ou au diable ». Permettez cette expression, et Allahu ya'lamu ma fil qalb. C'est-à-dire que vous avez des gens, comme on dit, idirhum kamel. Quelqu'un qui est à la mosquée, qui est dans le riba, qui est dans le... Mais alors, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que pour ces gens-là, l'essentiel est que je fasse ma prière. Et je me souviens une fois, quelqu'un, donc, comme je disais, qui argumentait cet avis, disait, une fois, il y a quelqu'un qui est venu à la mosquée, qui a dit, alhamdoulilah, je me suis repenti à Dieu, et je me souviens, je n'ai pris conscience de l'importance de la prière et de pratiquer la prière qu'une fois, alors que j'étais dans un disco, et à un moment donné, alors que j'étais à côté de quelqu'un, on buvait, on faisait tout ce qui était interdit, et puis le type, il se lève, il dit, bon, je vais faire la prière de l'aube et je reviens. Et l'autre lui dit, mais attends, tu es en train de boire de l'alcool, etc. Et là, tu vas faire, il a dit, écoute.
C'est un signe de modernité.
Moi, je fais tout, mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle je suis intransigeant. Je ne couperai jamais mes liens avec Dieu. Attends, soyons sérieux. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, te dit que quiconque boit ne serait-ce qu'une seule goutte de vin ne peut se voir agréer sa prière pendant 40 jours. C'est un hadith authentique. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je me souviens dans les années fin 70, début des années 80, ici en Algérie, 40 jours avant le mois de Ramadan, tous les bars et les tavernes fermées. Pourquoi? Parce qu'on devait donner à tous ceux qui devaient jeûner ces 40 jours de sevrage.
Et permettre une certaine réforme aussi pour les buveurs, Kamal Shekat.
Oui, c'est ça. Nous sommes dans deux logiques différentes. La logique que nous préférons et qui veut que la réforme s'engage à différents niveaux, à différents paliers, accompagnant la prière, et chez les autres, accomplir sa prière et faire les 400 coups en même temps, sans aucun problème.
Il en fait allusion, l'imam l'akhdari kamal shikat. Awalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi, thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi
fardainihi,
kahkami salati wa tahara wa siyam, wa yajibu alayhi an yuhafidha ala hududillah. Les limites de Dieu kamal shikat sera impliquée la connaissance des statuts juridiques.
Absolument.
Ça a une relation avec l'ahkam al-khams?
Non, ça, l'ahkam al-khams.
Les interdits,
non, ça, quand vous dites l'ahkam al-khams, vous parlez du statut légal de toute chose. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est un interdit? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaité? Est-ce que c'est quelque chose qui me croit abhorré? Ou est-ce que c'est quelque chose
les
qui
interdits,
est autorisé?
Les limites
mais
de Dieu.
Mais là, il nous parle des interdits, de ce qui a été interdit, de ce qui a été rendu obligatoire et interdit. Alors, il dit ses ordres et ses prohibitions. Donc l'ordre, c'est ce qui vous met dans l'obligation de faire quelque chose. La prohibition, c'est ce qui vous interdit, c'est ce qui vous met face aux limites de Dieu.
Voilà, nous y sommes, vous venez de le dire. Donc ces ahkam ont une relation intime avec les limites de Dieu.
Absolument, bien sûr.
Il nous faut connaître ces limites et tous ces ahkam.
Bien sûr, le maximum du moins. Alors,
ça veut dire quoi le maximum?
Ça veut dire que chaque musulman est tenu de connaître les 5 obligations. C'est-à-dire la profession de foi et en quoi elle consiste, la prière, l'aumône légale, zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Ça, ce que nous appelons le ma'loum min ad-dini bid-darura, c'est ce que chacun devrait connaître. En plus de cela, bon alors maintenant, connaître les sciences du Coran, les sciences du Hadith, connaître les lois du négoce ou bien les mesures punitives, c'est pas une obligation pour tout le monde. Dans votre domaine,
l'exemple que vous venez de citer,
je suis
la boisson alcoolisée.
Oui, mais attendez.
Allez-y.
Bien sûr, ça fait partie de ce que nous appelons ma'loumun min ad-din
bid-darura.
Bien sûr, c'est clair. La taqrabu as-salata wa antum sukara, etc. Voilà. C'est un verset qui a été abrogé, soit dit en passant. Mais Quand on parle de ma'loum min ad-din bid-darura, vous êtes tenu de connaître les grandes lignes. Ça fait partie du béaba de la connaissance religieuse. Ensuite, si vous êtes commerçant, vous devez connaître
tout ce qui est inhérent
au négoce.
Oui.
Vous êtes, par exemple, médecin. Vous devez avoir une idée du principe de ce que nous appelons en langue arabe « daman », c'est-à-dire la garantie. Vous devez
l'éthique,
etc. Donc, dans chaque domaine, chacun de nous est tenu de connaître bien comme il faut ce qui a trait à son domaine, en plus de la connaissance des grandes obligations, des grands interdits, etc. Et là, donc, nous sommes dans une logique qui n'est pas celle des wahhabites ou bien des madakhila, de ces gens-là qui se réclament du salafisme au salafiyatu minhum bara. Nous sommes dans une autre logique qui consiste à vraiment se parfaire et d'aborder la prière comme il se doit. Alors que les autres, ils sont là beaucoup plus. Alors, la prière, tu dois te lever de telle manière, tu dois te mettre en position debout de telle manière, les bras, ils sont posés l'un sur l'autre à tel niveau, un peu au-dessus du nombril, au-dessous de la poitrine, etc. Et quand tu lèves les mains, hadwal manakib, donc à hauteur des épaules, tu dois ouvrir les mains de sorte à ce que les doigts se désolidarisent l'un de l'autre, etc. Mais dans des postures et à ne plus en finir, etc. Et ça, même si ça fait partie intégrante de la prière, ça n'est pas l'âme de la prière que vous privilégiez. C'est une gestuelle.
Vous venez de dire se parfaire et aborder la prière comme il se doit. Est-ce que cela devrait passer stricto sensu et de facto par une affiliation à une école donnée, une école juridique?
Pas forcément. Non, pas forcément. Vous êtes censé, alors là, nous sommes en Algérie, l'école dominante, c'est l'école malékite. Nous apprenons la manière d'aborder notre religion selon cette école. Pour le reste, vous avez d'autres écoles qui ont d'autres manières. Quand je dis d'autres manières, elles sont insignifiantes. Hein. Certains vont, comme je le disais, normalement dans la séance précédente, certains vont vont bouger le doigt quand ils font leur teshahod, d'autres lèvent les mains avant de se prosterner après, certains font ce que nous appelons jalsat l'istiraha, d'autres ne la font pas. Ça, ce sont des petites divergences qui sont plus qu'insignifiantes. Elles sont plus que secondaires, elles deviennent pratiquement insignifiantes. L'essentiel de la prière est ailleurs.
Mais leur méconnaissance conduit parfois à des fitaines, comme
ça. C'est ça le problème. Et le fait de voir des gens qui font des choses différentes des vôtres ne doit en aucun cas vous placer en opposant ou nous appelons l'inkar, c'est-à-dire vous allez jeter l'anathème sur ces gens-là. Non. C'est très fréquent. À telle enseigne qu'il y a des siècles de cela, dans la mosquée Omeyyade à Damas, on s'est retrouvé à l'intérieur même de la mosquée avec 4 mihrab. C'est-à-dire que les malékites venaient faire leur prière dans leur mihrab, les hanafites dans le leur, et il en était de même pour les shafi'ites et les hanbalites. Alors que nous savons à travers l'histoire que l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa se sont rencontrés au moins 2 fois. Ils avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre. L'imam Shafi'i était le disciple. L'imam Shafi'i était le disciple de l'imam Malik. L'imam Ahmed était l'un des disciples de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i a fait sa prière dans la mosquée d'Abu Hanifa. Et il a fait la prière comme le faisait Abu Hanifa. On lui a dit, mais attends, tu as prié. On a vu dans ta gestuelle que tu as fait strictement ce que faisait Abu Hanifa. Il a dit, mon respect pour cet homme est tel que je n'ai pas voulu me différencier de lui. Donc, pourquoi? Parce que l'imam Shafi'i savait que la posture des mains dans la prière n'était pas la prière elle-même.
Ces grands imams, c'est eux qui sont à la source de toutes ces fitaines aujourd'hui.
Non, ils sont
pourquoi
pas.
Pourquoi n'ont-ils pas laissé de garde-fous, oui, justement, pour leurs disciples?
Ils ont laissé des garde-fous pour leurs disciples. Ils ont largement disserté sur ça. Et ils ont expliqué que voilà, ça c'est un avis. Abu Hanifa disait, c'est le maximum que je puisse faire. Hada alladhi qadirna alayh. L'imam Shafi'i disait, ra'i sawabun yahtamilu al-khata. Je n'ai jamais confronté quelqu'un sans avoir prié Dieu que la vérité soit de son côté. Pourquoi? Parce que le fait que l'autre soit porteur de vérité et qu'il ait un argument supérieur au mien me permet d'apprendre encore plus, de me réformer, d'ouvrir mon espace.
Alors pourquoi cette guerre des tranchées aujourd'hui, Kamal Shakat, entre les 4 écoles?
Parce qu'après ces gens-là, nous avons eu affaire à des gens qui voulait avoir l'ascendant, la même mise sur les esprits. Et à partir de là, c'est moi qui ai raison et c'est tous les autres qui ont tort.
Vous me rappelez une phrase que vous aviez répétée de Cheikh Al-Hadi Al-Aqab, Allah yarhamou, en l'appelant donc à venir officier dans votre mosquée. Est-ce que je ne serais pas manipulable?
C'est Cheikh Hussein Walili que je salue, hein, qui a dit attention, il a une forte personnalité, vous pourrez pas le manipuler. J'ai dit, mais attends, c'est pas du tout le but recherché. Et là, j'ai dit, andou ilm. Est-ce qu'il a vraiment, est-ce qu'il est doué d'une science? Il a dit oui.
Donc c'est la maîtrise de tous les jours du savoir, d'être manipulé.
Bien sûr, mais le fait justement que le monsieur était doué d'une science avérée, il avait vraiment des connaissances, moi, ça ne me posait aucun problème. Parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui a une science, qui a de la science en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même il serait divergent par rapport à vous, ça ne poserait pas de problème. Parce que cette divergence, elle est de mise. Elle ne peut être considérée que comme une miséricorde divine. Il n'y aurait pas eu toute cette divergence. Est-ce que vous auriez trouvé des bibliothèques comme celles qui sont les nôtres dans le domaine religieux? À ce moment-là, on aurait eu un Coran, un recueil de hadith et une interprétation. Et c'est ainsi que ça marche, on ne change pas. C'est le cas, par exemple, chez les juifs, les chrétiens, etc. C'est une somme de livres. Et vous savez, je vais vous expliquer une chose. Le problème est qu'il y a tellement de voies sans issue dans ces livres qui sont ceux des juifs et des chrétiens, que quand ils ont été édités, diffusés au grand public, quelqu'un comme l'abbé Jacques-Paul Migne, vers 1938 ou je ne sais quoi, quand il a quand il a commencé à publier les livres des pères de l'Église, il a été fustigé par le Vatican. Parce que ces gens-là avaient des livres qu'on appelle les apocryphes. Alors apocryphe, ça a deux sens. Un apocryphe, ça peut être un livre qui ne jouit pas de beaucoup, beaucoup de crédit, qui n'a pas de consistance, donc qui est considéré comme faible. Et pour preuve, vous avez je ne sais combien d'évangiles, j'en connais au moins une trentaine, et le problème c'est qu'il n'y en a que quatre qui sont considérés comme canoniques, les autres sont considérés comme apocryphes, donc faibles, daif. Mais il y a le mot en lui-même, il a d'autres significations. Quand on vous parle d'un livre apocryphe, ça veut dire que c'est un hidden book, un livre caché. Et ces livres ne sont saignés ou ne se transmettaient que par les clercs, clericum, clericos, c'est-à-dire les érudits, les hommes de Dieu en quelque sorte. Et c'est pour cela, par exemple, que quand vous étudiez le Talmud, vous avez le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Celui de Jérusalem, vous allez le retrouver partout. Mais celui de Babylone, il est caché, parce que celui de Babylone, et que maintenant beaucoup de gens connaissent, c'est dans ce Talmud qu'on vous dira, il faut tuer tous les goyim.
Les sciences du Zohar, de la Kabbale.
Oui, c'est ça. Dans le Zohar, soi-disant, c'est... vous savez, il n'y a pas d'éducation spirituelle dans le judaïsme. Donc le Zohar, franchement, quand ils vous disent, oui, c'est un livre de spiritualité, moi, j'ai envie de dire, laissez-moi rire ou laissez-moi rêver. Mais en tout cas, le Talmud, c'est un livre qui vous dit, voilà, on peut avoir un rapport sexuel avec une fille de 3 ans. La loi nous donne
cela. Même un nouveau-né.
Oui. Et le problème, c'est que vous avez cette ignare, cette corrompue qui a dit tout récemment, oui, nous en Europe, nous procédons comme vous des lois du Talmud. Malheureusement, pour les ignares qui n'ont aucune connaissance et qui disent n'importe quoi. Ces serpillères du sionisme qui parlent et qui disent aussi n'importe quoi. Donc,
quelle grande ouverture d'esprit.
Oui,
le problème rappelle aussi le mot de Melek, hein, qu'on voulait en faire une référence primordiale par la région du moment.
Oui, par le Mansour,
oui.
le calife abbasside. Et il a dit non.
Il aurait mieux fait d'accepter d'en tirer les meilleures faveurs,
Ça nous aurait envoyé dans un mur, carrément. Parce que il a dit... Son argument était plus que logique. Il a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont dispersés dans les différentes contrées et chacun d'eux a emporté avec lui sa propre science. Et à partir de là, si vous voulez unifier la nation en imposant un avis, vous allez mettre cette nation dans la gêne. Et donc, là, nous sommes en train d'étudier un recueil qui se réclame de l'école malékite, donc d'une école juridique, qu'il y a ses propres sources d'inspiration, ses propres fondements, mais il ne fera jamais office de Coran, de parole de Dieu. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une vision de la prière qui est très acceptable, mais qui ne doit en aucun cas réfuter ou rejeter les autres manières, les autres gestuels de la prière qui ne viennent qu'au second plan par rapport à l'essentiel, par rapport à l'ossature qui fait cette prière.
C'est la fin de cette émission, Kamel Chakat, et je terminerai avec une belle exégèse du verset « Wa'alamu anna fikum Rasulallah ». Quelqu'un alors disait, en explicitant ce verset, que c'est grâce à la diffusion de la science prophétique, le départ des compagnons un peu partout sur la planète. Chacun a pris avec lui une part de cette science, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est partout aux quatre coins de la terre.
Absolument, absolument.
Je vous remercie, Kamel Chakat. Nous continuerons la semaine prochaine, inchallah, avec cette belle œuvre de l'imam Akhtari, Mukhtasar al-Ibadat. Merci d'avoir été des nôtres et à vendredi prochain, inchallah. Bonne suite de week-end. Au revoir.